Regard sur les transmissions, une série de témoignages de cédants et de cédantes agricoles. Épisode 1, Concordance des temps. Dans ce premier épisode, Édouard nous raconte son installation progressive en tant que maraîcher. Comment il a développé et fait évoluer sa manière de produire. Il nous détaille comment le collectif a été pour lui un moteur, une source d'inspiration, jusqu'à être l'élément déclencheur d'une dynamique de transmission. Entre installation progressive et transmission progressive, Édouard nous raconte son cheminement.
Alors, je m'appelle Édouard, je suis arrivé en Haute-Loire en 2000. Je suis issu de l'hôtellerie-restauration. En fait, j'ai eu envie d'avancer vers un truc un peu plus sain que ce que je faisais jusqu'ici. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas produire. Moi, j'étais vraiment complètement novice là-dedans, je connaissais rien du tout. Donc, j'ai commencé tout petit, sur 2000 m2, à aller chercher l'eau à la rivière dans des arrosoirs. Des trucs un peu rigolos, quoi. Puis petit à petit, je me suis formé, on va dire, au contact d'un voisin qui avait fait ça avant, qui avait une petite ferme, un petit jardin de 2000 m2, mais bien productif, tout ça. Et ensuite, il y a un groupe qui s'est créé, un groupe de producteurs qui s'est fédéré pour créer un groupe technique dans lequel on faisait des formations, des voyages d'études, des partages d'expériences. On allait faire des visites et ça a été pour moi déterminant dans ma progression. On n'est vraiment pas sur une région de tradition maraîchère. Et donc, le peu de maraîchers qu'on était ici, on était seuls, quoi. Et seuls avec nos doutes, avec nos réussites, c'était assez compliqué. Et là, d'un coup, il y avait un réseau qui se créait et ça permettait vraiment de partager les choses qui marchaient pas, les choses qui marchaient bien, avec des possibilités de réponse quand on avait des doutes. Et ça a fait un bien fou, quoi. Moi, je vois pas une installation maraîchère sans prendre contact avec cette structure-là. C'est vraiment essentiel, quoi. Et tout au long de mon parcours, on va dire, j'ai eu aussi affaire à d'autres collectifs. J'ai vendu donc sur le marché de Brioude avec une association qui s'appelle Arbre, qui est toujours existante. C'est un groupe d'agriculteurs qui vendent en commun sur le marché de Brioude, sur un stand collectif. Et après, en expérience collective aussi, effectivement, il y a la FOG, avec qui j'ai fait ma compta pendant un certain nombre d'années, et on faisait la compta ensemble. Voilà. Donc j'ai démarré petit à petit avec les terrains qu'on avait ici autour de la maison pour aller jusque, on va dire, un hectare 3, un hectare et demi, et sur la fin pour revenir à 6000 m2 de production. J'étais contraint en fait de diminuer mes surfaces. Ça faisait un moment que j'avais envie de réduire les surfaces et de changer de technique en intensifiant, en densifiant les cultures, en mélangeant les cultures pour gagner de la place. C'est flippant parce qu'on diminuait les surfaces. Là, c'était pas rien s'il s'agissait de couper en deux. Donc, ça a consisté à redessiner, redesigner complètement les jardins sous l'angle de dire chaque mètre carré doit être productif. Le plus possible, le plus intelligemment possible, en conservant évidemment une biodiversité légumière stable, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas rendre malade les uns au profit d'autres. J'ai besoin de gagner ma vie, gagner sa vie. Donc le truc économique, c'est parfois un petit peu, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce businessman, quoi. Il y avait quand même un petit défi à se dire, moi je vais valoriser mon sol au maximum et montrer que en travaillant différemment, chaque mètre carré peut être très productif et très efficace pour permettre de nourrir les gens avec le moins de surface possible, avec des pratiques bio. Donc ça complexifie énormément les plans de culture, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de tests aussi, parce qu'il y a des choses qui... Je parle de ça comme si c'était facile, mais en fait il y a plein de choses qui ont foiré, évidemment. Et plein de choses qui ont bien marché. Et économiquement, ça a été une réussite aussi, parce que j'ai pas subi, malgré le fait d'avoir divisé la surface par deux, j'ai pas subi de perte de chiffre d'affaires, voire même ça a continué à progresser. Donc ça, c'était super, quoi. c'était tout gagnant. L'installation progressive, ça voulait dire une progression de chiffre d'affaires qui était assez régulière, qui a progressé au rythme de ma connaissance technique. En fait, c'est un métier qui est très technique. On peut avoir toutes les réflexions de gestionnaire, comptable, économique. C'est soit on est bon techniquement et on gagne notre vie, soit on n'est pas bon et on gagne pas notre vie. Et ça, c'est du temps, du partage d'expérience, de la formation. Bon, après, voilà, je dis ça. C'est des métiers quand même, c'est 5% de poésie et 95% de boulot, quoi. Enfin, pour gagner sa vie, quoi. J'ai mis en gros 6 ans à sortir un SMIC. Là, il y a un truc qui est très important, c'est que on était deux, Marion et moi. Marion, c'est ma compagne. Mais du coup, elle faisait un peu bouillir la marmite à côté, quoi. Elle a fait des boulots pas toujours chouettes. Et j'ai eu la chance que Marion accepte tout ça et m'accompagne un peu là-dedans. Et voilà, donc j'ai mis 6 ans à faire un SMIC. Et ensuite, eh ben, ça a progressé jusqu'à arriver sur des niveaux de revenus que je trouvais vraiment dignes, qui me convenaient de l'ordre de 2000 euros par mois. Et ce qui, je trouve... Voilà, à moins de 1500 euros par mois sur un métier comme celui-là, je juge que c'est pas digne, en fait. Voilà. J'ai commencé à embaucher il y a une dizaine d'années, et globalement, c'est assez flippant de se dire qu'on va embaucher alors qu'on se paye à peine, en fait. Il y a une espèce de truc insoluble. On se dit, ok, je gagne pas ma vie, à mon sens, pas suffisamment. J'arrive pas à faire le travail comme j'aimerais qu'il soit, mais je suis pas sûr de pouvoir payer les gens que je vais embaucher. Donc j'ai fait le pari d'embaucher quand même. J'ai calculé un peu tout ce que je foirais, d'après moi, par manque de main-d'œuvre, que je réussissais pas. Et je me suis dit, bah tiens, si j'embauchais et qu'on réussissait tout ce que je rate, est-ce que ça permettait de couvrir les salaires des gens que j'embauchais? Et ça a marché. Donc ça, c'est génial. Donc en gros, ce qui est super drôle, c'est que je me suis mis à gagner ma vie quand je me suis mis à embaucher. Donc quand je me suis mis à dépenser de l'argent pour de la ressource humaine. Et pour le coup, c'était super, quoi. C'était super bien passé. J'ai eu la chance de tomber sur toujours des gens extra, quoi, qui avaient vraiment envie de bien faire et qui eux aussi trouvaient du sens à faire ce qu'on faisait. Et donc jusqu'à un moment où je me suis fixé avec deux filles avec qui j'ai terminé donc ma carrière, si on peut dire. Ça fait un peu vieux con, mais c'est comme ça. Avec qui c'était super, des espèces de fusées, quoi, toujours au top. Voilà, on avait un vrai plaisir à travailler ensemble. J'avais besoin d'elles, en fait. Et je pense que si je les avais pas eues, j'aurais arrêté plus tôt. Ça, je leur ai dit plusieurs fois, mais c'était vrai, c'était pas juste pour faire le malin. Et il se trouve que, si on peut faire un petit lien avec la transmission, ces deux filles ont rejoint Valentin, qui a aussi travaillé chez moi pendant 3-4 ans, aussi avec ces filles-là, avant de s'installer. Mais on y reviendra tout à l'heure. Je faisais un métier qui me plaisait, qui me permettait de gagner convenablement ma vie, mais j'ai quand même arrêté. Ça a pris quelques années pour me décider, parce que c'est pas facile d'arrêter quelque chose qui plaît, mais j'ai eu besoin de passer à autre chose, à la fois pour des raisons physique, on va dire, mais surtout mental, en fait. Cette espèce de charge mentale de ce métier, c'est quand même assez tendu. Si on prenait la comparaison, pour moi, c'est, par rapport aux éleveurs, c'est comme si on était en période de foin pendant 8 mois, en fait. C'est la même type de tension, donc c'est assez usant. Valentin, il est arrivé dans la région et il cherchait un stage en maraîchage. Et donc, il est venu passer 2 mois en stage. Moi, j'avais besoin d'embauche, je lui ai proposé de rester. Et puis, il a fait connaissance avec donc mes 2 autres salariés qui travaillaient ici. Et puis, ben, ça allait plutôt bien, si bien qu'il est resté environ 3 ans et demi à peu près, ici, à travailler avec moi en tant que salarié. Il est arrivé dans une période où j'étais déjà en réflexion d'arrêter, en fait. Il a participé à mes 3 dernières années, on va dire. À la fois, c'est intéressant parce que c'était là où je pense j'étais le meilleur, quoi, techniquement. Donc, j'avais pas mal de choses à apporter. C'est intéressant pour moi, c'est super valorisant d'avoir quelqu'un qui arrive, pouvoir transmettre des choses, c'est super. Et puis, on s'entendait super bien. Lui, il a fait tout ce que j'ai pas fait pendant mon installation, c'est-à-dire prendre un peu d'expérience avant de se lancer. C'est beaucoup plus raisonnable de faire ça. Faut pas du tout faire partir comme j'ai fait, parce que c'est nul, quoi. On met trop de temps, c'est n'importe quoi. Sur un métier super technique, moi, je pars avec rien dans les poches, rien dans la tête, rien dans les mains. Parfait. Donc lui, il a fait ça, il est plus malin que moi. Et on s'entendait très bien, on était assez complémentaires, je trouve, au niveau travail. Évidemment, c'est posé la question de s'associer. Moi, ça me tournait dans la tête. Lui, il cherchait à s'installer, je le savais. Moi, j'étais un peu fatigué mentalement. J'en avais assez de porter seul tout ça. Et du coup, on en a parlé assez ouvertement, quoi. Je lui ai expliqué mes doutes, mes besoins. Moi, j'étais dans une situation où j'étais pas sûr d'avoir envie de continuer. Lui, avec l'énergie, l'envie de se lancer, ça m'a semblé imprudent de s'associer, dans la mesure où moi, j'étais pas sûr de, au bout de 2 ans, j'aurais peut-être eu envie d'arrêter, quoi. C'était pas vraiment pas un cadeau à lui faire. Et je pense que, ouais, même pour moi, c'était quand il s'agit de recasser un GAEC, c'est un peu le bordel. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Donc, j'ai annoncé ça à mes 2 salariés qu'à partir de 2024, donc ça veut dire 4 mois avant la fin de la saison. Du coup, j'ai annoncé ça aussi à Valentin. Il avait fait une petite installation et il avait quitté l'équipe en 2023. Il a acquis beaucoup de savoir-faire. En tout cas, il s'est nourri de la façon dont je fonctionnais, moi. Et je reste convaincu qu'on aurait pu vraiment travailler ensemble de manière harmonieuse. Bon, il n'était pas spécialement question qu'il reprenne les terrains que j'avais autour de la maison, parce que c'est des terrains qui sont vraiment tout proches. Et lui, il avait trouvé des terrains de son côté, qu'il avait commencé à exploiter. Mais j'avais envie de l'accompagner dans son installation, parce que on avait partagé du temps ici, on est devenus amis, hein. Du coup, j'ai essayé de lui transmettre maximum de choses. À chaque fois qu'il a un doute, un besoin, je suis là s'il a besoin, sur des calendriers de production, sur des soucis techniques qu'il peut avoir, des questionnements. Il m'a repris pas mal de matériel. Il s'est inspiré de ce qu'on pratiquait ici, avec mes pratiques des dernières années, c'est-à-dire un peu l'intensification pour optimiser au maximum les surfaces, sachant que c'est des techniques qui sont sur le papier super, mais qui demandent un bon bagage technique, en fait. Démarrer comme ça, c'est un beau défi, quoi. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas faciles à mettre en œuvre quand on a peu de bagage technique. Quand je parle de plan de culture, c'est vraiment le cœur du réacteur, hein. C'est en hiver, c'est le travail de 2-3 jours à 8 heures par jour. On dessine les plans de jardin. On design l'année entière, qu'est-ce qu'il va avoir où sur chaque mètre carré, à quelle époque on va le récolter, à quelle époque le mètre carré récolté va pouvoir être remis en culture pour qu'il y ait un laps de temps le plus court possible entre les deux. Enfin, tout ça, il faut aussi le connecter avec les possibilités de vente, faire des prévisions de réussite de production. Donc tout ça, c'est des notions qu'on n'a pas quand on démarre, et c'est des choses que j'ai pu lui apporter, même si lui, il est allé aussi de son côté à la pêche à pas mal d'infos. Donc voilà. Et donc là, d'un coup, il s'est retrouvé avec une proposition qui consistait à reprendre en fait mes créneaux de vente, du coup, à avoir une obligation de production pour assumer ces créneaux de vente, qui étaient devenus quand même assez importants, quoi. Ça voulait dire des chiffres d'affaires qui pouvaient avoisiner 80 000 euros, donc en légumes, ça commence à représenter quelque chose, quoi. Donc ça lui a mis un petit coup de pression, mais voilà, moi j'ai pas pu faire autrement, faire un accompagnement plus doux, avec un tuilage plus doux avec lui. parce que pour moi, c'était le moment, quoi. Donc, ben, il a décidé de relever le défi et de reprendre mes créneaux de vente. Il y a un élément qui est vraiment super, c'est aussi les deux filles qui ont travaillé avec moi, qui ont rejoint Valentin. Pour moi, il y a une petite partie de moi qui est chez lui à travers elles. Parce que... Elles ont acquis énormément d'expérience, d'autonomie, de savoir-faire ici. Et elles en font bénéficier Valentin derrière. C'est un vrai risque hein, qu'il prend parce que démarrer en salariant direct deux personnes, pas à temps plein, mais c'est chaud quoi, faut y aller quoi. Mais elles vont lui apporter des trucs super quoi. Ça va donner lui donner de l'assurance, de la souplesse. Il peut avoir toute confiance en elle. Et ça c'est ultra précieux. S'il y a une chose avec les autres maraîchers qu'elles on pouvait échanger, c'est la difficulté d'avoir gardé les salariés et des salariés qui soient sur qui s'appuyer. Et moi, j'avais vraiment cette chance-là, quoi. C'est vraiment top, quoi. Et lui, il récupère ça, ça c'est cool. C'est vraiment super. Une des craintes que j'avais dans le fait d'arrêter, c'est aussi la perte de mon statut social de maraîcher, qui dans certaines proportions, on a l'impression d'être une espèce de mini-star, mini super-héros, et d'un coup, on perd ce statut-là, ça fait un peu flipper. Tu te dis, ouais, tu vas plus être estampillé le maraîcher, avec ses beaux petits légumes, qui est sympa, qui est ceci, qui est cela, et paf, on plonge dans l'anonymat local. Ouais, pour moi, ça m'a traversé, et pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui ont pris le même chemin, c'est quelque chose de pas forcément facile à vivre, en fait. Ça compte. Peut-être qu'en maraîchage plus qu'en élevage, on peut se dire qu'on n'est pas maraîcher toute sa vie. Les engagements sont pas les mêmes. Les engagements financiers, c'est des structures. Ma structure, c'est une structure légère. On peut s'installer de manière légère en maraîchage, légère économiquement, ce qui est plus difficile quand même en élevage. J'ai arrêté avant d'être à la retraite parce que j'en avais besoin. Il y avait Valentin qui voulait s'installer. On avait évoqué l'association, donc ça me paraissait vraiment complètement naturel, quoi. Et c'est vrai aussi que on en parle en rigolant, mais Valentin, c'est un peu mon poulain, quoi. Je suis convaincu qu'il va réussir. Et je serais vraiment... Ouais, je pense que je serais fier de ça, quoi. À travers sa réussite, je continue à... Est-ce que c'est pas un petit peu narcissique, ce que je dis, là? Un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, je continue à... être fier, être content, ouais. Ouais. Je suis conscient que de ce que j'ai fait. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis démarré de zéro, rien du tout. Je vais pas être faussement modeste, hein, ou je sais pas quoi... Je sais par où je suis passé, je sais quand on démarre de zéro par rapport à reprendre quelque chose en cours, je sais ce que ça demande, sur tout ce dont j'ai parlé déjà, quoi, tout ce qui donnait du sens à ce que je faisais. Et ça pour moi, je trouve ça super, et je le retrouve encore maintenant quand je croise des gens dans la rue, ils ont une image plutôt sympa, et on garde un contact plutôt sympa, quoi. Donc ça, c'est chouette aussi, quoi. Et on a fait le marché ensemble assez longtemps aussi avec Valentin, et ça, il l'a bien compris. Et il est vraiment aussi dans cette démarche-là, de créer du lien. On est dans un tout petit pays, et voilà, on a tous besoin les uns des autres. C'est bien comme ça, quoi.
« Les témoignages que vous écoutez ont été réalisés dans le cadre du projet Courroie de transmission, porté par le Célavar Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à Édouard Mortier pour son témoignage. Cette série a été réalisée par Florian Revol de l'association La Calligramme, accompagné par Christine Pack de l'association DASA. La musique, Maybe I Don't Know It All, est du duo Koi Panda. Illustration pour la vignette du podcast Les Savoirs Ambulants. Si vous avez un projet de transmission ou d'installation agricole en Auvergne, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association DASA via notre site associationdasa.fr.